Troisième heure, salutations, Jean de la Mauricie du Centre du Québec, qui nous écoutait sur le 106.9. Évidemment, on va terminer cette semaine avec Valérie Roberts. Toujours intéressante, Valérie. On va parler également du soutien psychologique pour les enfants, les jeunes. C'est en très forte hausse. On va parler également magasinage. Ça ne sera plus jamais comme avant. Mais d'abord, Luc Lavoie, rebonjour.
Rebonjour, Bernard.
Alors, dernière tournée planétaire pour cette semaine.
Allons-y. Commençons au Québec, où on a maintenant 3865 morts, 65 de plus dans les 24 dernières heures, et 46 141 cas, soit 646 de plus. Madame la vice-première ministre Geneviève Guilbeault a parlé de tendances positives, de chiffres stables, et ce malgré le fait qu'on a augmenté les tests, donc elle y voit une situation positive. À l'échelle du Canada, 82 728 cas, 6 266 morts. Et je te rappelle que le premier ministre a annoncé que 1 700 fonctionnaires de Statistique Canada avaient été formés afin qu'ils puissent appuyer le travail des provinces dans le traçage des porteurs du virus. C'est un exercice que les experts estiment essentiel pour le déconfinement.
Ben oui. Le traçage, c'est une fois que tu as trouvé quelqu'un...
C'est la prochaine étape. Tu veux savoir à qui il a parlé, est-ce qu'il l'a vu, tout
et
ça.
Et voilà.
Et c'est fondamental pour le déconfinement. Mm-hmm. Alors, les fonctionnaires fédéraux en question pourront faire jusqu'à 20 000 appels par jour. Ils ont déjà eu une formation spéciale. Et Mme Guilbeault a dit en conférence de presse qu'on va refuser aucune aide. Mm. On va pleinement collaborer.
Bon.
À l'échelle du monde.
Oui.
5 257 235 cas. Mm-hmm, mm-hmm. 336 863 morts.
Ouh. C'est sûr qu'on va... à un moment donné, quelque part cet été, là, plus tôt que tard, on va être au demi-milliard. On va être à 500... on est à combien, tu as dit, là? 200...
De décès?
Oui, décès, 300, combien tu as dit?
336 863.
Donc, on va être au demi-million, dis-je bien. Oui, c'est ça.
Ah, facilement.
Oui.
Et l'Organisation mondiale de la santé a émis un communiqué ce matin pour annoncer que l'Amérique du Sud est maintenant considérée un épicentre de la pandémie, avec une situation particulièrement alarmante au Brésil, et j'y reviens dans un instant. Je vais d'abord aux États-Unis. Ils ont enregistré 1255 décès au cours des 24 dernières heures. Au total, 94 661 personnes sont mortes et on retrouve 1 576 542 cas qui ont été diagnostiqués, 25 582 de plus au cours des dernières 24 heures.
Ouais.
Donc, il n'y a rien de très encourageant dans les chiffres en provenance des États-Unis.
Non, puis on se rapproche. Luc, tu te rappelles, au début de la crise, c'est Fauci qui avait donné une fourchette, puis ça commençait, le chiffre le plus bas, si je me rappelle bien, c'était 120 000 décès.
Ben, le plus haut était 240, je pense.
Ben, on s'en rapproche du 120, on se rapproche du plancher, hein, puis on va voir après ça jusqu'où ça va monter vers le plafond.
En effet. Et là, des chercheurs de l'Université Columbia à New York en sont venus à la conclusion que plus de 35 000 morts auraient pu être évitées aux États-Unis si les mesures de confinement avaient été appliquées ne serait-ce qu'une semaine plus tôt.
Oui, puis
évidemment, ça s'adresse à M. Trump, mais d'un autre côté, ce genre de réflexion après coup, j'ai des doutes là-dessus. Moi, je pense que c'est pas une statistique très, très significative.
Oui, puis d'autant plus qu'on sait que les Américains ne comptaient pas et ne comptent peut-être pas toujours tous les décès dans les résidences pour aînés, là.
Oui. Maintenant, aux États-Unis, les Américains d'origine asiatique font face à une vague de discrimination. Les leaders de la communauté accusent l'administration du président Trump d'alimenter l'hostilité par un discours anti-immigrant et xénophobe ponctué d'attaques virulentes contre la Chine et ses ressortissants.
Un site web
a recensé en 6 semaines plus de 1 700 actes haineux contre cette communauté. Tous peuvent en être victimes, même le personnel soignant. Le Washington Post a relaté récemment le cas d'une spécialiste d'un hôpital de Boston qui traitait des patients souffrant de la COVID-19 et qui a été interpellée par un individu qui lui reprochait de vouloir tuer les Américains.
Une étude
rendue publique hier par le Pew Research Center, qui est une organisation très crédible, indique que l'image de la Chine s'est considérablement détériorée aux États-Unis. Les 2/3 de la population ont dit avoir une opinion négative de la Chine.
Oui, puis moi, juste pour enchérir, quand ils s'attaquent à la Chine, sais, tu rencontres un ressortissant, pas un ressortissant, mais un citoyen de descendance asiatique, tu fais pas nécessairement la différence entre quelqu'un qui est d'origine chinoise ou vietnamienne ou cambodgienne ou laotienne.
Oh non, les Asiatiques pour nous.
C'est ça. Alors, c'est sûr que la communauté d'origine asiatique aux États-Unis.
Elle est immense.
Elle subit les contre-coups des attaques de Trump contre la Chine parce que c'est ça, là. Tu sais, tout ce qui est asiatique, dans le fond, est sujet à des commentaires parfois négatifs et xénophobes provenant de ceux qui adhèrent au discours de Trump.
J'entends un peu la même chose parfois ici au Canada et même à Montréal. Mm. Tu sais, les Chinois ceci, puis les Chinois cela.
Ben oui.
Quelle perte de temps. Mm. Enfin, même si cela signifiait qu'il agissait de façon illégale en ne portant pas de masque pendant une visite d'une usine Ford au Michigan, le président Trump a choisi d'être le seul à ne pas en porter. Et là, c'est amusant. Dans une lettre, la procureure générale du Michigan, Dana Nessel, l'avait exhorté à se couvrir le visage lors de sa visite, et je la cite, « Mon département n'interviendra pas pour vous empêcher de visiter l'usine de Ford, mais je vous demande de respecter les efforts considérables des hommes et des femmes travaillant pour Ford en portant un couvre-visage. Quiconque a potentiellement été exposé au coronavirus récemment, y compris le président des États-Unis, a non seulement une responsabilité juridique, mais aussi une responsabilité sociale et morale de prendre des précautions raisonnables pour empêcher une plus grande propagation du virus. »
Puis il lui a donné le majeur.
Voilà, le doigt d'honneur. Je vous rappelle que le Michigan recense au moins 53 000 cas de COVID-19 et plus de 5 100 morts. L'État a l'un des taux d'infection et de mortalité les plus élevés au pays. Ouais. En Chine, très brièvement, devant l'Assemblée nationale populaire, le Parlement chinois, qui vient d'inaugurer sa session annuelle ce matin, le premier ministre Li Keqiang a proclamé victoire dans la guerre que son pays a menée au coronavirus, et je le cite, « Nous avons obtenu une réussite stratégique majeure dans notre réponse à la COVID-19.
Bon. »
Et voilà, on va faire... Alors, allons-y au Brésil. Brésil a dépassé hier le seuil des 20 000 morts, après une hausse record de 1 188 décès au cours des précédentes 24 heures. Les nouveaux cas d'infection confirmés en 24 heures se sont élevés à 18 508. Alors, pays de loin le plus touché d'Amérique latine, avec 57 % des morts sur le continent, le Brésil enregistre au total 20 047 morts et 310 087 cas confirmés. Mm-hmm. Le nombre de morts a doublé en seulement 11 jours. Mais je vous rappelle que ces données sont largement mises en doute par la communauté scientifique, qui estime que le bilan réel pourrait être 15 fois plus élevé que les chiffres officiels.
Bon.
Puis en dépit de cette foudroyante croissance du nombre de cas et de morts, le président Bolsonaro a encore appelé, pas plus tard qu'hier, à une reprise rapide de l'activité économique.
Bon. Tu vas-tu nous parler du Mexique? Parce que je t'ai envoyé un papier
de
Guardian. Écoute,
J'y vais dans l'ordre. Le Pérou.
Vas-y. Oui, Pérou.
Le Pérou, c'est le deuxième pays, là.
Oui.
La plupart des hôpitaux de Lima, capitale du Pérou, sont au bord de la rupture. A mis en garde jeudi le bureau du défenseur du peuple péruvien, l'entité publique chargée de veiller au respect des droits de la personne dans le pays. Dans un communiqué, le bureau a déclaré, et je le cite, « L'impossibilité de se faire soigner dans les services de santé de Lima est imminente. Les établissements de santé manquent d'équipements, de biosécurité pour le personnel, de lits en réanimation, de respirateurs, d'oxygène et de tests. Il manque de tout, quoi. Le Pérou est le deuxième pays le plus touché par l'épidémie en Amérique latine après le Brésil. Il est le troisième en termes de décès après le Mexique. Jusqu'ici, ce pays de 32 millions d'habitants, je parle toujours du Pérou, a enregistré 108 769 contaminations et 3 148 morts.
Bon.
J'y arrive au Mexique.
Oui, ben parce que j'ai habité là pendant deux ans. Puis qu'est-ce que tu veux, ils sont restés chers à mon cœur, les Mexicains.
Évidemment.
Et là, ce que j'ai lu un matin puis que je t'ai transmis, ça m'a inquiété.
Ben là, c'est un des trois pays les plus touchés avec 59 567 cas, des chiffres pas du tout crédibles, et 606 510 morts. Alors, ce que tu m'as envoyé ce matin, c'est le récit d'un photographe de presse sur la réalité du terrain. Il nous dépeint, disons, un portrait sûrement plus grave que les statistiques officielles. Dans une ville du centre du Mexique, San Luis Potosi, nombreux sont ceux qui croient que le coronavirus est une invention du gouvernement. Le photographe en question s'est rendu à une usine de fabrication de briques pour constater que les travailleurs n'ont pas les moyens de se protéger, il n'y a aucun gel antibactérien, aucun masque et aucune distanciation physique. Et je te rappelle aussi, ou je te souligne, pas je te rappelle, que beaucoup de citoyens du Mexique ou de cette région, de cette ville, de San Luis Potosi, sont convaincus que le gouvernement répand le virus la nuit.
Par la voie des airs, hein, avec un avion là, qu'il asperge, si on peut dire, la population, ce qui est complètement débile, là, qu'il vaporise le virus.
Ce qui m'amène à te dire, Bernard, en passant, hier, on a parlé des cas de crackpot, là.
Oui.
J'ai reçu des dizaines de courriels, mais incroyable, il y a tellement de gens qui croient ces folies-là.
C'est Luc, c'est ce que j'ai dit. Je te l'ai dit, moi, j'ai été surpris.
Un problème de santé mentale, là, ça n'a pas de bon sens. Dès que tu dis aux gens, moi j'ai répondu à un, vous devriez aller consulter, parce que ce qu'il disait était tellement délirant. Si tu penses que je vais plier devant des riches comme vous autres,
c'est plus fort qu'on le pense. On continue à t'écouter, vas-y.
On s'en va en Italie, brièvement, le nombre de décès en Italie entre mars et avril pourrait dépasser de 19 000 les chiffres annoncés par les autorités, estimé la sécurité sociale italienne qui a jugé peu fiable le bilan officiel de 32 000 morts.
D'accord.
Bonne nouvelle, la célèbre cathédrale gothique de Florence, le légendaire Duomo,
oui,
a rouvert ses portes au public pour la première fois depuis le début de mars. C'était ce matin.
Bon.
Puis il n'y avait pas les hordes habituelles de touristes. Puis franchement, c'est très bien ainsi, parce que je veux dire, Florence s'est rendu qu'on ne peut plus y aller, ça n'a pas de bon sens.
Bon, OK. T'es un grand défenseur de l'architecture et de l'histoire italienne. Quand tu parles de Venise, et là, tu parles de Florence, c'est toujours avec beaucoup de passion.
Ben, Florence, écoute, moi, je pense que tu te souviens, t'as déjà entendu parler du syndrome de Stendhal.
Oui, Stendhal.
Le grand écrivain français qui allait passer des grandes périodes de temps à Florence, et le syndrome de Stendhal, c'est qu'il disait qu'il finissait par être un peu malade parce qu'il y avait trop de beauté autour de lui.
Oui, oui.
Florence, c'est une beauté extraordinaire, allez-y un jour. Bon, la Russie a dit aujourd'hui s'attendre à une hausse significative de la mortalité du mois de mai. Bon. À l'heure actuelle, on dénombre 326 000 cas et 3 249 victimes.
Bon.
Dans les dernières 24 heures, on a dénombré un record de victimes en une seule journée, soit 150 et 9 000 nouveaux cas. Malgré tout, le président Poutine est d'avis que la situation est en train de se stabiliser. Alors, ça fait pas mal le tour, Bernard.
Très bien, mon cher. Merci, Luc. Je te souhaite un très, très beau week-end.
À toi aussi. Fais ton premier barbecue. Fais-le.
Ah, je vais le faire, mais je vais le faire en famille. Famille. Prends soin de toi, mon gars. Prends soin de toi. Alors là, vous êtes plusieurs à m'écrire pour me dire l'appel a été entendu. Il y a du monde à l'Aréna Saint-François pour aller se faire tester. Donc, à l'Aréna Saint-François à Laval. À l'Aréna Cartier. Je suis à l'Aréna Cartier. Ça va vite. Merci, me dit un autre auditeur. Et un troisième qui me disait la même chose pour le troisième centre de dépistage. Là, ça va tellement bien. Si je comprends bien, à l'Aréna Cartier, il y a tellement de monde que là, on nous dit qu'il faut prendre un rendez-vous. Alors qu'auparavant, il fallait pas prendre de rendez-vous, mais là, il y a tellement de monde qu'il faut prendre un rendez-vous. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 1-877-644-4545 pour prendre un rendez-vous. Par contre, si vous allez à l'aréna Pierre Kramer, dans le quartier Chaumedey, au 1160 boulevard Pie-Neuf, si je comprends bien ça, ils prennent encore des gens sans rendez-vous. C'est ce qu'on comprend. À pied ou en voiture. Donc, je rappelle, l'aréna Pierre Kramer dans Chaumedey, l'aréna Cartier dans la Val-des-Rapides, mais là, l'information qu'on a, c'est prenez un rendez-vous avant d'y aller. Et l'aréna Saint-François, à pied ou en voiture, encore une fois, vous pouvez vous faire tester. Très bien. On s'en va à la pause au retour. L'aide psychologique dont les enfants et les parents ont besoin à cause de cette crise qui n'en finit plus de finir.